Chapitre 53. Denis.
Il doit le reprendre, le titre déchu, la tour, la couronne et la lance.
Daté de Veva H. 1173, 8 secondes avant la mort. Sujet, une prostituée. Passé inconnu.
Une flèche tranchante comme un rasoir se planta dans le bois près du visage de Kaladin. Il sentit le sang tiède couler d'une entaille sur sa joue, glisser le long de son visage, se mêler à la sueur qui coulait de son menton.
« Serrez les rangs !»
hurla-t-il en chargeant sur le sol inégal avec le poids familier du pont sur ses épaules. Tout près, juste devant lui sur la gauche, le pont 20 se débattait péniblement. Quatre hommes à l'avant étaient tombés sous les flèches et faisaient trébucher ceux qui les suivaient. Les archers Parchendi s'agenouillaient de l'autre côté du gouffre, chantant calmement malgré la pluie de flèches tirées du côté de Sadeas. Leurs yeux noirs évoquaient des éclats d'obsidienne. Pas de blanc, rien que ce noir dépourvu d'émotion. Lors de ces instants, alors qu'il écoutait les hommes hurler, crier, brailler, s'époumoner, Kaladin détestait les Parchendi autant qu'il détestait Sadeas et Amaram. Comment pouvait-il chanter tout en tuant? Les Parchendi qui se trouvaient devant l'équipe de Kaladin visèrent et tirèrent. Kaladin hurla à leur intention, éprouvant un étrange afflux de force lorsque les flèches furent lâchées. Elles fendirent l'air en une vague concentrée. 10 d'entre elles se plantèrent dans le pont près de la tête de Kaladin, avec un impact qui fit frémir le bois, et des éclats de bois se dégagèrent. Mais aucune ne toucha la chair. De l'autre côté du gouffre, plusieurs des Parchendi baissèrent leur arc et interrompirent leur chant. Leur visage démoniaque affichait un air stupéfait. « À terre !» hurla Kaladin, tandis que l'équipe de pont atteignait le gouffre. Le sol était rugueux ici, couvert de boutons de roche bulbeux. Kaladin marcha sur une de leurs lianes, ce qui poussa la plante à se rétracter. Les hommes soulevèrent le pont de leurs épaules, puis s'écartèrent d'un air expert et le baissèrent à terre. 16 autres équipes s'alignèrent avec eux et posèrent leur pont. Derrière, la cavalerie lourde de Sadeas traversa bruyamment le plateau dans leur direction. Les Parchendi tirèrent de nouveau. Kaladin serra les dents et projeta son poids contre l'une des barres de bois latérales, aidant à pousser l'immense construction par-dessus le gouffre. Il détestait cette partie-là. Les hommes de pont se retrouvaient tellement exposés. Les archers de Sadeas continuèrent à tirer, passant à une attaque concentrée destinée à forcer les Parchendi à reculer. Comme toujours, les archers semblaient bien se moquer de toucher des hommes de pont, et plusieurs de ses flèches frôlèrent dangereusement Kaladin. Il continua à pousser, saignant et transpirant, et éprouva une bouffée d'orgueil pour le pont 4. Il commençait déjà à bouger comme des guerriers, à pas légers, à se déplacer de manière imprévisible, ce qui compliquait la tâche des archers qui leur tiraient dessus. Gaz ou les hommes de Sadeas s'en apercevraient-ils? Le pont tomba lourdement, et Kaladin hurla l'ordre de se retirer. Les hommes de pont s'écartèrent, esquivant les flèches noires des Parchendi aux hampes épaisses et les plus légères, à la hampe verte des archers de Sadeas. Moash et Rock se hissèrent sur le pont et le traversèrent en courant, puis sautèrent à terre près de Kaladin. D'autres s'éparpillèrent autour de l'arrière du pont et se baissèrent pour éviter la charge de cavalerie imminente. Kaladin s'attarda et fit signe à ses hommes de s'éloigner hors d'atteinte. Quand ils le furent tous, il lança un coup d'œil en direction du pont qui était hérissé de flèches. Pas un seul homme abattu. Un miracle. Il se retourna pour courir. Quelqu'un chancela de l'autre côté du pont. Denis. Une flèche à l'empennage vert et blanc dépassait de l'épaule du jeune homme de pont. Il ouvrait de grands yeux, hébété. Kaladin jura et courut dans sa direction. Avant qu'il ait fait deux pas, une flèche noire atteignit le jeune homme de l'autre côté. Il tomba sur le pont, aspergeant le bois sombre de son sang. Les chevaux qui chargeaient ne ralentirent pas. Paniqué, Kaladin atteignit le côté du pont, mais quelque chose le retint, des mains sur ses épaules. Il tituba et se retourna pour voir Moash derrière lui. Kaladin lui montra les dents, cherchant à l'écarter, mais Moash, recourant à un mouvement qu'il lui avait lui-même appris, tira Kaladin de côté et le fit trébucher. Moash se jeta sur lui et le plaqua au sol tandis que la cavalerie lourde traversait le pont, des flèches s'écrasant contre leur armure argentée. Des fragments de flèches brisées tombèrent à terre. Kaladin se débattit un moment, mais s'immobilisa ensuite.
« Il est mort !» dit Moash d'une voix rude. « Vous n'auriez rien pu faire, je suis désolé !»«
Vous n'auriez rien pu faire ?»« Je ne peux jamais rien faire. Père des tempêtes, pourquoi est-ce que je ne peux pas les sauver ?» Le pont cessa de trembler. La cavalerie se précipita vers les Parchendi en dégageant de l'espace pour les fantassins qui suivaient dans un cliquetis métallique. La cavalerie se retirerait une fois qu'ils auraient trouvé prise, les chevaux étant trop précieux pour que l'on court le risque d'un combat prolongé. « Oui, se dit Kaladin, concentre-toi sur la tactique, sur la bataille. Ne pense pas à Denis. » Il écarta Moash et se leva. Le corps de Denis était mutilé au point d'en devenir méconnaissable. Kaladin serra la mâchoire et se retourna, puis s'éloigna d'un pas raide sans regarder en arrière. Il frôla les hommes de pont qui regardaient le spectacle et s'avança jusqu'au bord du gouffre, serrant les mains sur ses avant-bras derrière son dos, pieds bien écartés. Ce n'était pas dangereux tant qu'il se tenait à l'écart du pont. Les Parchendi avaient rangé leurs arcs et reculaient. La chrysalide était un haut monticule de pierre ovale du côté gauche du plateau. Kaladin avait envie de regarder. Ça le poussait à réfléchir comme un soldat, ce qui l'aidait à se remettre de la mort des gens proches de lui. Les autres hommes de pont l'approchèrent timidement et se mirent au repos de parade. Même Chêne, le Parche, se joignit à eux, imitant les autres en silence. Il s'était joint à toutes les courses au pont jusqu'à présent sans se plaindre. Il ne refusait pas de marcher contre ses cousins. Il ne tentait pas de saboter l'attaque. Gaz était déçu, mais Kaladin n'était pas surpris. Les Parches étaient ainsi, sauf ceux qui se trouvaient de l'autre côté du gouffre. Kaladin observait les combats, mais il avait du mal à se concentrer sur la tactique. La mort de Denis le déchirait trop. Le garçon avait été un ami, l'un des premiers à le soutenir, l'un des meilleurs parmi les hommes de pont. Chaque mort les rapprochait du désastre. Il faudrait des semaines pour former correctement les hommes. Ils perdraient la moitié de leurs effectifs, peut-être même plus, avant d'être ne serait-ce que vaguement prêts à se battre. C'était loin de suffire. « Eh bien, tu vas devoir trouver un moyen d'y remédier », songea Kaladin. Il avait pris sa décision et n'avait pas de place pour le désespoir. Le désespoir était un luxe. Il quitta sa position de repos de parade et s'éloigna du gouffre d'un pas raide. Les autres hommes de pont se détournèrent pour le regarder, surpris. Kaladin avait récemment pris l'habitude d'observer des batailles entières depuis cette position. Les soldats de Sadeas s'en étaient aperçus. Beaucoup y voyaient des hommes de pont outrepassant leurs conditions. Quelques-uns cependant semblaient respecter le pont 4 pour le spectacle offert. Il savait qu'il y avait des rumeurs à son sujet à cause de la tempête. Il y contribuait sans aucun doute. Le pont 4 suivit, et Kaladin guida ses hommes à travers le plateau rocheux. Il prit soin de ne pas regarder le corps brisé et mutilé sur le pont. Denis avait été l'un des seuls hommes de pont à conserver un soupçon d'innocence. Et il était mort à présent, piétiné par Sadeas, frappé par les flèches des deux camps, ignoré, oublié, abandonné. Kaladin ne pouvait rien pour lui. Il se dirigea donc plutôt vers l'endroit où les membres du pont 8 étaient étendus, épuisés, sur un carré de pierre nue. Kaladin se rappelait être resté étendu ainsi après ses premières courses au pont. À présent, il se sentait à peine essoufflé. Comme d'habitude, les autres équipes de pont avaient laissé leurs blessés en arrière, tandis qu'elles se retiraient. Un pauvre homme du 8 rampait en direction des autres, une flèche dans la cuisse. Kaladin se dirigea vers lui. Il avait une peau brune et des yeux marrons, et ses épais cheveux noirs étaient tirés en arrière en une longue queue tressée. Des sprènes de douleur rampaient autour de lui. Il leva les yeux vers Kaladin et les membres du pont 4 qui se dressaient au-dessus de lui. « Ne bougez pas !» dit tout bas Kaladin en s'agenouillant et en retournant doucement l'homme pour regarder plus attentivement sa cuisse blessée. Kaladin la tâta. songeur. Teft, il va nous falloir un feu. Sortez votre amadou. Rock, vous avez toujours mon aiguille et mon fil? Je vais en avoir besoin. Où est l'open avec l'eau? Les membres du pont 4 gardèrent le silence. Kaladin leva les yeux de l'homme blessé et désorienté.
Kaladin, dit Rock, vous savez comment les autres équipes de pont nous ont traités.
Je m'en fiche, répondit Kaladin.
Nous n'avons plus d'argent, dit Drey. Même en rassemblant nos revenus, nous avons à peine assez pour acheter des pansements pour nos hommes.
Je m'en fiche.
Si nous nous soucions des blessés des autres équipes de pont, dit Drey en secouant sa tête blonde, nous allons devoir les nourrir, nous occuper d'eux.
Je vais trouver un moyen, dit Kaladin.
Je... commença Rock.
Nom des foudres ! S'écria Kaladin, qui se leva et balaya d'un geste de la main le plateau jonché de corps des hommes de pont, ignorés par tous.
Regardez ça !
Qui se soucie d'eux ?
Pas Sadeas, ni leurs camarades. Je doute que les héros eux-mêmes leur accordent une pensée.
Je refuse de rester planté là tandis que des hommes meurent derrière moi. Nous devons être meilleurs que ça. Nous ne pouvons pas détourner le regard et faire semblant de ne rien voir. Cet homme est l'un d'entre nous, tout comme l'était Denis.
Les pâles iris parlent d'honneur. Ils déclament des paroles creuses au sujet de leur noblesse. Mais je n'ai connu qu'un seul homme de toute ma vie qui ait été un véritable homme d'honneur. C'était un chirurgien, prêt à aider n'importe qui, même ceux qui le haïssaient. Surtout ceux-là.
Eh bien, nous allons montrer à Gaz, à Sadeas, à Achal et à n'importe quel crétin qui daignera nous regarder ce qu'il m'a appris. Maintenant, au travail. Et arrêtez de vous plaindre.
Tous les membres du pont 4 le regardèrent fixement, yeux écarquillés, remplis de honte, puis se mirent en mouvement. Teft organisa une unité de triage, envoya quelques hommes chercher d'autres blessés, et les autres rassemblés de l'écorce de bouton de roche pour le feu. Lopen et Dabid s'éloignèrent hâtivement pour rapporter leur civière. Kaladin s'agenouilla pour tâter la jambe du blessé, vérifia à quelle vitesse s'écoulait le sang, et conclut qu'il n'aurait pas besoin de cautériser. Il brisa la tige de la flèche et essuya la plaie à l'aide de mucus de pointe-coque, ce qui tira un grognement au blessé, puis il utilisa sa réserve personnelle de bandage pour panser la plaie.
« Maintenez ça avec vos mains, » lui dit Kaladin, « et ne marchez pas dessus. Je repasserai vous voir avant que nous ne regagnions le camp. »
« Comment ? »
dit l'homme. Il n'avait même pas le moindre soupçon d'accent. Avec sa peau sombre, Kaladin l'aurait cru azéen.
« Comment est-ce que je reviendrai, si je ne peux pas marcher sur cette jambe ?»«
Nous allons vous porter, » dit Kaladin. L'homme leva les yeux, visiblement stupéfait.
« Je... »
Des larmes lui vinrent aux yeux.
« Merci. »
Kaladin hocha brusquement la tête et se retourna tandis que Rock et Moash apportaient un autre blessé. Teft faisait brûler un feu. Il dégageait une âcre odeur de bouton de roche humide. Le nouveau blessé s'était cogné la tête et avait une longue entaille au bras. Kaladin tendit la main pour qu'on lui donne son fil.
« Kaladin, mon garçon !»
dit Teft d'une voix douce en lui tendant le fil et en s'agenouillant.
« Ne prenez pas ça pour des plaintes, car ça n'en est pas. Mais combien d'hommes est-ce que nous pouvons vraiment rapporter avec nous ?»«
Nous l'avons déjà fait pour trois, » répondit Kaladin, « en les attachant au-dessus du pont. Je parierais que nous pouvons y faire tenir trois de plus et emporter un autre dans la civière à eau. »«
Et si nous en avons plus de sept ?»«
Si nous les pansons correctement, certains seraient peut-être en mesure de marcher. »«
Et s'il y en a encore d'autres ?»«
Nom des foudres, Teft !» dit Kaladin en se mettant à recoudre. « Alors nous porterons ceux que nous pourrons, et nous retournerons avec le pont chercher ceux que nous aurons laissés en arrière. Nous amènerons Gaz avec nous si les soldats s'inquiètent que nous prenions la fuite. »
Teft garda le silence, et Kaladin se prépara à subir son incrédulité. Au lieu de quoi, le soldat grisonnant lui sourit. Il semblait même avoir un peu les larmes aux yeux.
« Par l'haleine de Kelek. C'est vrai. » Je n'avais pas pensé.
Kaladin fronça les sourcils, leva les yeux vers Teft et appuya une main contre la blessure pour étancher l'hémorragie. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Oh, rien.
Il se renfrogna.
Remettez-vous au travail. Ce garçon a besoin de vous.
Kaladin se remit à coudre.
« Vous transportez toujours une bourse remplie de sphères avec vous, comme je vous l'avais dit ?»
demanda Teft. « Je ne peux pas trop les laisser dans la baraque, mais nous allons bientôt devoir les dépenser. »«
Vous n'allez rien faire de tel, » répondit Teft. « Ces sphères représentent la chance, vous m'entendez ?
Conservez-les sur vous et gardez-les toujours infusées. » Kaladin soupira. « Je crois que ce lot a quelque chose d'anormal. Elles ne gardent pas leur fulgiflamme. Elles redeviennent éteintes après quelques jours à peine chaque fois. Ça a peut-être quelque chose à voir avec les plaines brisées. »«
Curieux, » répondit Teft en se frottant le menton. « C'était une mauvaise approche. Trois ponts abattus, beaucoup d'hommes de pont morts. C'est intéressant que nous n'ayons perdu personne. »«
Nous avons perdu Denis. » »«
Mais pas lors de l'approche. » « Vous courez toujours à la pointe, et les flèches semblent toujours nous manquer. »«
Curieux, hein ?» Kaladin leva de nouveau les yeux, songeur.
« Qu'êtes-vous en train de me dire, Teft ?»«
Rien.
Remettez-vous à recoudre. »«
Combien de fois est-ce que je dois vous le dire ?»
Kaladin haussa un sourcil, mais se remit au travail. Teft se comportait très curieusement depuis quelque temps. Était-ce à cause de la tension ? Beaucoup de gens étaient superstitieux vis-à-vis des sphères et de la fulgiflamme. Rock et son équipe apportèrent trois autres blessés, puis déclarèrent que c'était tout ce qu'ils avaient trouvé. Les hommes de pont qui tombaient finissaient souvent comme Denis, piétinés. Enfin, au moins le pont 4 n'aurait-il pas à faire un trajet de retour vers le plateau. Tous trois avaient de vilaines plaies de flèches, et Kaladin leur laissa donc l'homme au bras entaillé, donnant à Scar la consigne de maintenir une pression sur les sutures inachevées. Teft fit chauffer un poignard pour la cautérisation. Ces nouveaux arrivants avaient apparemment perdu beaucoup de sang. L'un d'entre eux ne s'en tirerait sans doute pas.
« Une si grande partie du monde est en guerre. » songea-t-il tout en travaillant.
Le rêve avait souligné ce dont les autres parlaient déjà. Kaladin n'avait pas su, lorsqu'il grandissait dans cette pierre d'âtre isolée, quelle chance avait eu sa ville d'éviter la bataille? Le monde entier était en guerre, et il s'efforçait de sauver quelques hommes de pont appauvris. À quoi bon? Et pourtant, il continuait à cautériser, à recoudre, à sauver les vies, comme son père le lui avait appris. Il commençait à comprendre le sentiment de futilité qu'il avait lu dans les yeux de son père lors de ces quelques nuits sombres où l'Irine s'était tournée vers le vin par solitude.
« Tu essaies de te rattraper pour Denis, » songea Kaladin. « Aider les autres ne le ramènera pas. »
Il perdit celui dont il avait soupçonné qu'il mourrait, mais sauva les quatre autres, et celui qui avait reçu un coup à la tête commençait à se réveiller. Kaladin se remit à genoux, les mains couvertes de sang. Il les lava en faisant couler un filet d'eau des outres de l'Open, puis leva la main, se rappelant enfin sa propre blessure, là où la flèche lui avait entaillé la peau. Il se figea. Il tâta sa peau, mais ne trouva pas la plaie. Il avait senti du sang sur sa joue et son menton. Il avait senti la flèche l'entailler, n'est-ce pas ? Il se leva, éprouvant un frisson, et porta la main à son front. Que se passait-il ? Quelqu'un s'avança auprès de lui. Le visage de Moash, désormais rasé de près, arborait une cicatrice délavée le long du menton. Il étudia Kaladin.
« Au sujet de Denis, vous avez eu raison d'agir comme vous l'avez fait, » répondit Kaladin. « Vous m'avez sans doute sauvé la vie. Merci. »
Moash hocha lentement la tête. Il se retourna pour regarder les quatre blessés. Lopen et Dabid leur donnaient à boire et leur demandaient leur nom.
« Je me trompais à votre sujet. » dit soudain Moash en tendant la main à Kaladin.
Ce dernier la prit, hésitant.
Merci. Vous êtes un crétin et un agitateur, mais honnête,
Moash gloussa pour lui-même.
Si vous nous faites tuer, ce ne sera pas volontaire. Je ne peux pas en dire autant de certains sous les ordres desquels j'ai servi. Enfin bref, préparons ces hommes pour le retour.